Bonjour, chers amis, je ne sais pas si ça fonctionne, oui, c'est bon. Chers frères et sœurs de Sainte-Agne, il y a quelques visages bien connus depuis de longues années, d'autres visages nouveaux, mais on est là pour faire connaissance, se rencontrer, puisque Dieu nous a fait frères et sœurs, et nous avons une même foi qui nous conduit sur le même chemin. J'ai remarqué qu'à Sainte-Agne, vous aimiez les randonnées. Je me trompe? Bon, pas tous peut-être, pardon, je ne veux pas interférer. Et ce matin, je vous propose d'en faire une, si vous voulez bien. D'accord? Hein, il y a à peu près 11 kilomètres à faire, donc il va nous falloir presque 3 heures, hein, je pense, c'est ça à peu près, hein. À 3-4 km heure. Bon, je pense qu'on va essayer de réduire un peu quand même et de ne pas perdre trop de temps en chemin. Mais on a des choses à partager, donc il vaut mieux qu'on prenne quand même un peu de temps pour partager les choses, échanger. Ces 11 km, c'est deux disciples qui les ont fait sur le chemin d'Emmaüs. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, un récit que vous connaissez bien, certainement. Alors, je vais essayer d'être concis, parce que je remarque, comme toujours, j'ai trop de notes. Donc, comme vous n'avez pas assez de temps, on va essayer d'aller à l'essentiel rapidement, sans perdre de temps. Donc, Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres, un peu plus. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés et elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et dit la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. On a là une de ces courtes histoires de l'Évangile, une histoire, un récit pourtant immortel, plein de richesses à découvrir, plein d'humanité, qui nous montre à la fois la fragilité de notre condition humaine face aux questions de la vie. Et ils avaient des questions importantes qu'ils se posaient à ce moment-là, ces deux disciples, et aux réponses à trouver, la fragilité de notre propre condition ressentie à certains moments de la vie. Mais nous trouvons en même temps dans ce récit toute la force de la révélation et du dessein de Dieu lorsqu'ils sont saisis par la foi, lorsque ce dessein est saisi par la foi. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, nous puissions le rencontrer et le connaître sur les chemins de la vie que nous parcourons. Cette histoire nous montre la capacité de Jésus à redonner du sens aux choses de la vie que nous traversons, aux circonstances de la vie diverses que nous pouvons traverser. Il veut nous rejoindre sur notre parcours de vie personnelle. Il veut nous rejoindre sur notre parcours de vie familiale. Il veut nous rejoindre sur le parcours de vie de notre Église. Il désire nous remettre sur une trajectoire, si jamais nous en étions sortis, une trajectoire vertueuse. Il veut que notre cœur puisse à nouveau brûler et découvrir ainsi l'amour, l'intention, le dessein de Dieu pour nos vies, notre famille ou pour l'Église. Pour d'autres choses, d'autres éléments également. Alors ces deux disciples, ils sont en lutte avec, nous l'avons dit, les questions de la vie, mais les questions de leur vie à ce moment-là. Deux disciples, il s'agit de deux hommes dont nous ne connaissons pas d'emblée l'identité. Un peu plus loin, l'un d'entre eux est nommé Cléopas et son identité ainsi nous est donnée. Ils sont en train de parcourir cette distance entre Jérusalem et Emmaüs. Et les trois jours précédents ont été pour eux des jours de chagrin et de douleur dévastateurs à cause des rêves qui se sont envolés, à cause des espérances qu'ils ont perdues, qui sont déçues, et d'attentes qui sont déçues. Ils viennent de vivre une sorte de cataclysme. C'est une tempête qui est en train de traverser leur vie. Par-dessus tout, donc, leur maître, leur leader, Jésus, a été arrêté, torturé, maudit, crucifié. Tout semble s'être évanoui de leur attente et de leurs espérances. Nous avons affaire à deux hommes fatigués, confus, désillusionnés. Et ainsi, donc, ils le disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits et tout semble s'écrouler de tout ce que nous attendions. Nous espérions donc que ce serait lui qui nous délivre, qui apporterait la rédemption à Israël. Peut-être en ce qui nous concerne, nous comparons ainsi à ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes en route sur le chemin de la vie et nous nous posons des questions par rapport à notre destinée, par rapport peut-être à notre parcours de foi, à nos parcours de vie chrétienne, aux circonstances de la vie que nous avons traversées et que nous traversons. Nous nous posons des questions peut-être sur notre mariage, sur notre personne, sur notre profession, notre célibat, notre église, notre divorce peut-être si nous avons dû passer par une telle tempête, par la maladie, peut-être sur des choses plus spirituelles, l'appel à le suivre que le Seigneur nous a adressé et où est-ce que Jésus veut vraiment nous mener. Nous pouvons nous retrouver donc sur ce genre de chemin que ces deux disciples ont connu sur la route d'Emmaüs, alors que le jour est sous son déclin. Nous avons connu comme eux la proximité du Seigneur. Nous étions pleins d'une vision, pleins d'une foi que nous avons, alors que nous avons expérimenté son attouchement, sa proximité, sa bénédiction. Mais aussi, bien sûr, des tempêtes sont survenues. Des crises que nous avons traversées nous ont frappés. La maladie, le divorce, la mort, les échecs familiaux, professionnels, des catastrophes inattendues. Ce sont donc deux hommes découragés. Vous avez peut-être, à certains moments de votre vie, connu le découragement, non ? Et connu un moment où les choses perdent un petit peu de leur sens. Alors Jésus vient les rejoindre, vient se joindre à eux sur ce chemin d'Emmaüs et les rejoindre dans leur réalité présente. Alors une question se pose, est-ce que quel que soit l'état d'âme, l'état de vie dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous pensez que Jésus peut vous rejoindre? Oui, c'est une question bonne à poser. Et donc, il y a quelqu'un qui l'a exprimé dans un psaume. Il s'agit du roi David. Vous vous souvenez du psaume 139? Ça vous dit quelque chose? Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ça commence comme cela. Et puis, au verset 7, il dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme ta lumière. Ça veut dire que nos ténèbres n'en sont pas pour Dieu. Eh bien, Dieu peut nous rejoindre au milieu des ténèbres que nous ressentons et que nous pouvons vivre. Alors, il va leur poser une question sur cette route d'Emmaüs. De quoi vous entretieniez-vous ? Ils l'ont alors regardé avec étonnement, d'accord ? Ils ont dit, il est vraiment pas au courant, lui, c'est pas possible. C'est le sujet de discussion dans toute la ville de Jérusalem, sur les marchés, dans les familles, partout. On discute de tous ces événements qui se sont produits lors de la crucifixion de ces trois hommes, et en particulier de celui qui n'aurait pas dû être là, mais qui s'est retrouvé sur une croix, crucifié par la vindicte populaire et par la manipulation et, comment dire, par parce que les hommes religieux et politiques de ce temps-là ont orchestré de manière à se débarrasser de celui qui semblait être un gêneur. Ils l'ont regardé avec étonnement, donc. Comment ça se fait que tu saches pas? T'as pas lu les journaux? Hein? Tu n'as pas regardé le 20h? BFM TV peut-être, hein? Oui, les chaînes d'information en continu. Tu es le seul à ne pas être au courant. C'est vrai que ses disciples ont subi une perte et ils doivent faire le deuil de ce qu'ils avaient envisagé pour l'avenir, de leurs rêves. Et Jésus leur permet d'exprimer cela. Il n'est pas arrivé, vous avez remarqué, en disant « C'est moi ! Vous ne me reconnaissez pas comment ? Regardez !» Et puis il leur donnait tout de suite quelques indications. Non, il a pas fait comme cela. Hein. Il a cheminé avec eux pour comprendre ce qui était en train de se passer dans leur cœur, dans leur entendement, dans leur intelligence. Et donc ainsi, cheminant avec eux, eh bien, il a vu où en étaient ces hommes. Ils viennent, nous le disions, de subir une perte. Et c'est vrai que dans la vie, dans nos cheminements, il y a des pertes parfois que nous subissons. Ça peut être personnel, ça peut être une personne, ça peut être des choses sur lesquelles nous sommes appelés à faire un deuil. Et Dieu veut nous aider parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas revenir et nous devons apprendre à faire le deuil. C'est vrai pour une église également. C'est vrai pour l'église de Sainte-Agne. Et nous pouvons, Dieu peut nous aider à cheminer et à dépasser les circonstances et l'analyse que nous pouvons en faire de manière à rentrer dans une révélation propre comme celle qui s'est faite au moment où Jésus, bien sûr, leur a ouvert, où leurs yeux se sont ouverts. Le plus important, je cite quelqu'un qui dit ceci, le plus important c'est le temps situé entre les rêves et non pas, un commentateur chrétien bien sûr, le plus important ce n'est pas le temps situé entre les rêves que nous pouvons avoir, je veux pas me tromper, important le temps et le temps situé entre les rêves, pas les rêves eux-mêmes, le plus important, ce ne sont pas les rêves eux-mêmes, d'accord? Il y a quelqu'un qui a dû l'apprendre, il s'appelait Joseph, vous vous souvenez? Jeune adolescent. Il a fallu attendre 14 ans avant que son rêve s'accomplisse. Hein? Adolescent, oui, parce qu'il avait à peine 13-14 ans quand ça s'est passé. Le texte nous le dit, hein? La Bible nous le dit, le livre de la Genèse nous le dit. Donc on ne l'a pas reconstitué, c'est dit clairement dans le texte. Et ce jeune garçon plein de naïveté a présenté le rêve à ses frères. Il aurait dû être beaucoup plus prudent, bien sûr. Et il a fallu 14 ans avant, passant par tout un cheminement dans lequel il a été testé pour que son caractère puisse être porteur du rêve et il soit formé pour pouvoir réaliser le rêve qui lui avait été donné, révélé par Dieu. Parce qu'au départ, il n'était pas capable de le porter. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que Dieu fait dans nos vies, mais c'est un autre sujet. Quelle est la stratégie de Jésus dans ces moments? Vous vous êtes posé la question déjà, en méditant ce texte? Pourquoi les a-t-il laissés dans l'ignorance un moment? Pourquoi, comme je le disais, ne pas leur avoir dit d'emblée, mais c'est moi, regardez la marque des clous dans mes mains, c'est bien moi ressuscité avec mon propre corps. Vous savez, je crois que Jésus nous donne la permission d'être ignorants. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu notre ignorance sur certaines choses que nous ne saisissons pas et que nous ne comprenons pas. D'accord? La question se pose, pourquoi ne les a-t-il pas repris, réprimandés, de ne pas lui avoir fait confiance alors qu'il leur avait parlé des événements qui viennent de se produire? Pourquoi les a-t-il gardés un temps donc dans l'ignorance? Bien sûr, après, il va quand même souligner la chose. Homme sans intelligence et lent à croire. D'accord? Il parle de l'intelligence du cœur. Il parle de celle de la foi. Nous allons y revenir un peu plus loin. Ah, bien sûr, il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Dans le même évangile de Luc, au chapitre 9 et ensuite au chapitre 18, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, etc. Je lis pas tout le texte. Ce qu'il veut leur montrer par son attitude est que ceux qui reconnaissent leur ignorance et se posent les bonnes questions sont ceux qui découvrent la vérité, la sagesse et la vie. Et c'est vrai pour nous également. D'accord ? C'était l'attitude de ces deux disciples, qui vont raconter d'ailleurs, ils vont lui raconter, puisqu'il n'a pas l'air d'être au courant, simplement les faits et leur perplexité devant ce qui s'est passé, même plutôt leur déception et leur tristesse. Ils sont honnêtes et authentiques, et je pense que c'est une bonne chose. Dieu n'est pas gêné par notre authenticité, par la vérité. On peut tout dire à Dieu. C'est pour ça qu'il nous invite d'ailleurs à aller dans le lieu secret. Vous le saviez? C'est parce qu'il peut tout entendre là. Ce que vous ne pourriez dire à personne, vous pouvez le lui dire. Et même des choses difficiles à dire. Dieu ne se choque pas. Et Dieu est assez grand. même pour entendre peut-être des reproches que vous souhaiteriez lui faire parce que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans votre vie ou ce qui se passe en ce moment. Allez lui dire dans le lieu secret. Interpellez-le. Parce que quand on interpelle Dieu, eh bien, il voit que nous sommes profondément en recherche, authentiquement. Il voit la faim et la soif de notre cœur. Et c'est ce qu'il a envie de voir. Et il a découvert chez ces deux hommes qu'il y avait une faim et soif de connaître le pourquoi des choses et ce qui était en train de se passer. Alors, Jésus s'est approché d'eux humblement, simplement, afin de les reconnecter avec Dieu et avec son dessein. D'accord ? Afin de les reconnecter avec ce qu'ils avaient connu lorsqu'ils avaient suivi Jésus ces dernières années, qu'ils l'avaient vu prêcher des sermons, dire des paroles inoubliables, des choses tellement pertinentes, tellement fortes, avec une perspective, avec une autorité, avec une onction, avec une vérité qui était déconcertante et qui allait au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais entendu. Alors bien sûr, il y avait tout un horizon qui s'était ouvert. Il l'avait vu guérir les malades, bien sûr. Il avait vu ressusciter des morts, peut-être pour certains d'entre eux, je ne sais pas pour ces deux-là. Mais ils avaient vu ce qu'il était capable, ils savaient ce qu'il était capable de faire, lui, en tant que rabbi, que maître. Et donc, il s'est approché d'eux afin de le reconnecter avec Dieu et son dessein. Ces deux hommes sont honnêtes et humbles. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hein, d'accord ? Il fait grâce aux humbles. C'est une vertu majeure, l'humilité. Il faut la découvrir, la connaître. Personne ne peut nous dire qu'il est un exemple d'humilité. Il y a des gens qui peuvent paraître humbles, mais bien sûr, c'est tout un sujet en soi. On va pas aller plus loin ce matin, mais on a besoin d'être authentique et vrai devant Dieu. Jésus a adopté une position d'ignorance délibérément. Il va leur poser la question « Quoi ?» leur dit-il. Il l'a fait pour leur permettre d'ouvrir leur cœur et ainsi les amener à faire une relecture des événements qui se sont produits récemment avec le jugement de Jésus, d'accord ? Avec son arrestation, son jugement, avec ensuite toute la torture qu'il a subie jusqu'à la croix, et alors qu'il porte cette croix dans les rues de Jérusalem, alors qu'il emprunte cette voie que l'on a appelée la Via Dolorosa, qu'il s'arrête à certains moments, qu'il va partager encore une parole ou deux avec certaines personnes. Oui, ils ont vécu toutes ces choses-là. Eux qui déjà avaient envisagé la venue du royaume de Dieu au travers du Messie, comme Ésaïe le décrit dans ces magnifiques chapitres du livre d'Ésaïe, c'est tellement beau. Alors que le Messie est présent, que la terre, que les relations humaines, tout semble restauré, même la vie naturelle semble restaurée. Il y a de nouvelles relations, une nouvelle perspective étonnante. Ah oui, ils avaient envisagé tout ça, et Jésus, il le voyait comme ce libérateur, certainement religieux, mais politique, militaire également, conduisant cette nation d'Israël vers sa destinée, qui est une destinée éternelle à long terme. Eh oui. Alors, il les amène à faire une relecture. Aller voir, à voir tous ces événements avec un autre regard, sous une autre perspective. Vous savez que Dieu a une pédagogie pour nous apprendre les choses ? Moi, il l'a eu avec moi, et avec vous. Il l'a, dans la mesure où vous interférez avec lui, bien sûr. Dans la mesure où vous avez un vrai dialogue avec lui. Parce que la prière, c'est pas juste réciter presque des prières. On peut réciter même des prières pentecôtistes. Hein. Ça existe. Non ? Oui ? Bien. Non, il y en a un qui est pas d'accord. On s'expliquera après, hein. T'es d'accord? Je donnerai plus de détails, mais on peut pas entamer un dialogue tous les deux, là. Hein. Du coup, il me fait perdre le fil. Hein. Mais en faisant cela, en les écoutant, Jésus les a aimés. Amen. Et Dieu nous aime aussi, en établissant un vrai dialogue avec nous. Gloire lui soit rendue. Et quand nous faisons cela, ça permet à des portes de notre cœur de s'ouvrir pour une meilleure connaissance de la vérité. La vérité peut alors nous pénétrer. C'est vrai qu'on est dans une société humaniste avec une philosophie plutôt athée, avec une sorte de déification de la connaissance. L'homme et sa connaissance ont pris la place de Dieu et on veut pouvoir dire la vérité, que ce soit par la science, par la philosophie, la psychologie, tout ce que vous voudrez. On veut pouvoir dire la vérité sur le monde, sur toute chose, sur le pourquoi des choses, l'origine des choses. Une conséquence de cela, c'est une attitude condescendante envers ceux qui peuvent montrer de l'ignorance ou manquer de connaissances. Il y a ainsi une sorte d'arrogance qui exalte le moi d'une manière malsaine par la performance, la connaissance intellectuelle. Je suis pas en train de faire l'apologie de l'ignorance, mais Dieu veut nous donner des compétences nécessaires d'abord pour vivre. Les compétences que Dieu veut nous donner, c'est pour vivre et affronter la vie telle qu'elle est. Hello? Vous me recevez? 5 sur 5. Faites le geste, 5 sur 5. Bon, ça va. Et c'est ça la foi. C'est ça la marche avec Dieu. Dieu nous rend compétents pour faire face à la vie telle qu'elle est. Alors, nous allons aller un peu plus loin, un pas de plus vers la révélation. Nous sommes en route vers la révélation. Dans leurs échanges avec les deux disciples, donc, au lieu de rejeter Jésus pour son apparente méconnaissance des événements qui viennent de se produire autour de la crucifixion, ils ont saisi l'opportunité de l'éclairer avec leur version de ce qui s'était produit. Et Jésus va écouter attentivement ce qu'ils ont à dire. Nous l'avons déjà souligné. Et puis, il y a un moment où il va prendre la main. Et il va les enseigner après les avoir écoutés. Il va changer de position. De celui qui semble ignorant de ce qui est arrivé, et surtout de la compréhension des événements qui viennent de se produire. Il va faire une présentation, une relecture des faits. Il va devenir celui qui parle et enseigne les disciples. Il rentre dans un rôle actif. Il a compris quelle était leur perception des événements qui viennent de se produire. Et il va maintenant partager sa perception et sa lecture des choses. Amen. C'est formidable, hein? C'est ça la pédagogie, d'accord? Divine. Et il va ainsi leur partager avec eux la connaissance profonde des choses qui se sont produites. Et il va les amener à faire un pas supplémentaire vers une révélation qu'ils n'ont pas encore et qu'ils ont besoin de recevoir. Il va s'adresser à leur cœur, aux yeux de leur cœur. Leurs yeux, nous est-il dit, étaient empêchés de le reconnaître. Savez-vous que vos cœurs ont des yeux? Non? Ils ont même des oreilles. D'accord? Eh oui. Il va ouvrir les yeux de leur cœur, car avec leurs yeux physiques, ils ne le reconnaissent pas. Il va ôter le voile. C'est la révélation, n'est-ce pas? Eh oui. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, Saint-Exupéry, une parole, je ne l'ai plus en tête exactement, au sujet de qu'on ne voit bien qu'avec les... Il y en a qui connaissent cette parole? Qu'on ne voit bien qu'avec les yeux... comment dit-il? J'ai plus la phrase exactement. Avec les yeux de notre cœur, hein, quelque chose dans ce sens-là. Oui, il le dit lui-même. Et il va ouvrir pour eux les Écritures avec ses deux disciples et le grand dessein de Dieu, afin qu'ils puissent s'inscrire, eux, personnellement, dans ce dessein. Leur cœur va commencer à bouger. il y a une flamme qui va commencer à s'allumer. Cet étranger est en train de restaurer en eux l'espérance et la compréhension des choses qui avaient été éteintes. C'est un nouveau printemps qui s'annonce. Il y a quelque chose qui s'amorce en eux. Et Jésus va redonner de la vie en soutenant et revitalisant leur esprit abattu et affamé. Il leur donne une nourriture bienfaisante. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de tout verset uniquement, mais de parole. C'est-à-dire, une parole, c'est vivant, c'est une communication d'un être vivant à un autre être vivant. Il ne s'agit pas simplement d'un texte écrit, mais d'une parole. La Bible, c'est le livre qui parle. Vous le saviez? Et il y a des gens qui se convertissent simplement en lisant la Bible parce que tout d'un coup, la Bible leur parle et quelque chose d'en haut, de divin se produit qui fait que, eh bien, Dieu leur parle, le Saint-Esprit leur parle au travers de la parole. Que Dieu soit béni. Il a comme activé donc, Jésus a activé la pompe de leur esprit et a permis à la révélation de couler. Leur cœur commence à brûler, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite, mais au bout d'un moment, quand Jésus les quittera, tout d'un coup, ils font une rétrospective sur les minutes qui viennent de se passer. Il y a quelque chose qui a brûlé en eux lorsqu'il leur expliquait les Écritures, parce que leur esprit, leur cœur a commencé à se reconnecter avec ce que Dieu était en train de faire. Amen. En d'autres mots, la parole de Jésus pénétrait profondément en eux, les préparant à une révélation miraculeuse qu'ils allaient recevoir. Une révélation qui non seulement allait transformer leur vie, mais aussi les vies de nombreuses, après eux, générations et de nombreuses nations même. Il s'agit d'une fraîche révélation. Et c'est vrai qu'il y a certains moments dans notre parcours chrétien, notre pèlerinage ou notre cheminement, où nous avons besoin d'une fraîche et nouvelle révélation de Jésus dans notre vie, ou une révélation du Père, une révélation de choses que nous connaissons, qui peuvent apporter un renouvellement, une transformation dans notre vie. C'est ainsi que Paul est amené à dire, dans l'Épître aux Éphésiens par exemple, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, ou qu'il illumine les yeux, je vous le disais tout à l'heure, vous ne voulez pas me croire, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux savoir avec mon cerveau, avec mon intelligence naturelle, avec mes capacités cognitives, comme on dit, et pourtant, qui quelque part n'ont pas la portée, la force qui est capable de donner une révélation dans laquelle l'esprit est vivifié et vient quelque part éclairer notre intelligence pour lui permettre de percevoir des choses qui ont une dimension autre que celle que peut-être une seule simple réflexion humaine ne peut seule pourra apporter. Oui. C'est la révélation et c'est quelque chose, la révélation c'est quelque chose de progressif, d'accord? Alors on n'est pas en train de parler de choses fantaisistes, on est en train de parler de révélation sur des choses qu'on peut déjà connaître, mais sur lesquelles Dieu est capable de nous revivifier et nous permettre de vivre les choses dans une dimension que nous n'avions pas encore tout à fait connue. Et c'est ce qu'il a fait avec ces deux hommes. Il a fait pour eux une relecture des Écritures de l'Ancienne Alliance, ce qui leur a permis de se réinscrire dans le grand dessein divin et de retrouver leur espérance. Dieu ne veut pas que nous survivions ou vivotions dans notre chemin d'enfants de Dieu. Moi, je me souviens dans mon parcours de foi qui commence à être long, hein. Eh oui, ça part de l'âge de 13 ans. Bon, je vous dirai pas mon âge, mais ça fait déjà un bout de temps. Donc. Et donc, c'est vrai que j'ai fait de très belles expériences avec Dieu dès le départ, des choses marquantes hein, que je pourrais vous décrire, vous renouveler ce matin, mais c'est pas mon propos. Pourtant, en cours de route, Je me souviens des années 90. C'était l'année 96-97. Où quelque part, Dieu m'a permis de le connaître d'une manière nouvelle, au travers de choses que je lisais depuis très longtemps, mais dont je ne percevais pas toute la dimension. Et j'ai redécouvert Dieu en tant que Père, par exemple, d'une manière toute nouvelle. Mais dans cette période-là où j'ai fait cette redécouverte, parce que lorsque Dieu se révèle avec une force particulière et que nous sommes confrontés à ce qu'il est, nous sommes confrontés également à ce que nous sommes. C'est la révélation, la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. C'est pas le doigt pointé de Dieu qui mène à la repentance. La parole de Dieu le dit clairement. C'est la révélation de Dieu, il n'a pas besoin de nous dire grand-chose. Il a besoin simplement de nous révéler, de dévoiler quelque chose qui, lorsqu'il ça apparaît dans notre être spirituel, apparaît d'une manière tout à fait particulière, nous bouleverse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre? Pour qu'au moment de la pêche miraculeuse, il se jette aux pieds de Jésus. « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Parce qu'il a vu, au travers de cette pêche, que Jésus l'a invité à faire, alors que c'était quelque chose qui n'était pas à faire à ce moment-là, va et jette le filet en pleine eau. Ses yeux se sont ouverts sur la personne de Jésus. Il a été terrassé dans une repentance profonde. C'est comme ça que ça marche, la repentance, d'accord? Moi, je peux vous parler de la repentance pendant des heures. Enfin, oui, certainement. C'est un mot très beau, d'ailleurs, que nous devrions apprendre à connaître. Et puis, davantage. Et par contre, il faut que j'avance, moi. Je vais m'arrêter sur la repentance. Alors, reste avec nous, lui ont-ils demandé. Reste avec nous. Ah oui, quand ils ont commencé à goûter aux choses, là, la faim et la soif des deux disciples, ils le supplient de rester avec eux. Ils ont une faim et une soif intense et veulent en savoir davantage. Ce qu'ils ont entendu les a tout simplement mis en appétit. Ils savent intuitivement que le plat principal va arriver. Et Jésus nous teste en nous écoutant et veut mesurer la faim et la soif de nos cœurs. Jésus les teste pour voir dans quelle mesure ils veulent vraiment vivre la présence de Dieu et connaître la présence de Dieu. Ils veulent apprendre à découvrir les choses qu'ils ne peuvent encore voir. Et il veut voir quelle est leur soif réelle. Vous savez, je vous parlais de mon expérience de repentance et j'ai un peu abrégé, bien sûr, ce que je devais vous dire, mais je termine quand même. C'est que j'ai été profondément remis en question lorsque Dieu s'est révélé à moi de cette manière-là. Je servais le Seigneur depuis des années. On peut être pasteur, prêcher du haut de l'estrade, tout ce que vous voulez. Et puis, je me suis retrouvé face contre terre. Il n'y avait personne que moi seul. Et j'ai connu une repentance comme je n'avais jamais connue. Avec une bienveillance et une force divine dans la révélation de son amour, de sa personne. Il me disait, voilà Marc qui tu es, des choses que je ne voyais pas. Ah oui, parce que quand Dieu se révèle, c'est ce qui se produit aussi. Ça nous courbe face contre terre parce qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas de nous-mêmes. Eh oui, on a besoin du regard des autres et on est aveugle en partie sur nous-mêmes. Hein. Vous ne saviez pas? Si, il y en a qui le savent. Ça va. Il y a l'exemple de Jacob, vous vous souvenez? Sa lutte avec Dieu à Péniel. À un moment clé de son parcours terrestre et de son cheminement qui l'a amené à trouver la véritable bénédiction qu'il cherchait depuis longtemps. C'est celle d'une nature changée, d'un cœur changé. Son nom a été changé de Jacob en celui d'Israël. D'accord? Il avait été béni de bien des manières. Il y avait la bénédiction de l'alliance qui le poursuivait. Pourtant, Dieu a voulu l'amener jusque-là, ce qui était le plus important pour lui, de rentrer vraiment dans sa destinée. Et il y est rentré lorsque Dieu l'a confronté et il l'a brisé à l'emboîture de la hanche pour que le reste de sa vie il se souvienne de ce qu'il avait appris ce jour-là, à ce moment-là. Amen. Je pourrais vous donner d'autres témoignages à ce sujet, mais nous n'avons pas le temps. Alors Jésus veut nous donner une rencontre du type Emmaüs, afin que nous trouvions des réponses à nos questions et que nos vies soient changées en sa présence, par sa présence. Leurs yeux se sont ouverts lorsqu'il a rompu le pain. Alors Jésus disparaît, le travail est fait, le travail est accompli. Il n'a plus besoin d'être là, physiquement présent avec eux. Hein? Au verset 16, il nous est dit « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Il y a un mot grec qui signifie « identifier une information nouvellement acquise à partir de ce qui avait été précédemment appris ou connu ». Et d'où la nécessité d'apprendre, de connaître, bien sûr. Les disciples ont passé plusieurs tests avant que leurs yeux aient été capables de voir et de reconnaître celui qui avait cheminé, parlé avec eux sur ce chemin. Voilà, nous arrivons au bout de notre randonnée. Ils ont dû accepter, ces deux disciples, de cheminer avec lui d'abord, que quelqu'un vienne interférer dans leur parcours et leur réflexion. Ensuite, être disposé à écouter, recevoir ses commentaires, ses questions, et de l'écouter dans son analyse de la situation. Finalement, ils avaient besoin de démontrer combien ils désiraient ardemment sa compagnie et des réponses clés pour leur vie. Alors, ils ont, après avoir passé ces tests, ils ont expérimenté ce magnifique moment où ils l'ont reconnu et connu dans sa nouvelle position. Vous vous souvenez du livre de Job, lorsque Job nous dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Amen. « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil, mes yeux t'ont vu. » Amen. C'est vrai, il a reçu une antidote à l'aveuglement, qu'il soit spirituel ou physique. Et c'est quand on vit cela, c'est de s'occuper de ce qui empêche la lumière de pénétrer au fond de notre œil. Amen. Que Dieu soit béni. Et que ce matin, Jésus puisse vous rejoindre et son esprit sur le chemin de vie sur lequel vous êtes. Puisse vous rejoindre sur le chemin de vie de votre famille également, ou de votre couple. D'accord? Puisse vous rejoindre aussi dans la vie de l'Église, afin que il puisse nous donner une autre perception des choses, analyse des choses, de la situation, et que une fraîche révélation venant, une fraîche, ouverture se fasse dans notre esprit, et que quelque part nous recommencions à marcher comme au premier jour avec lui et à vivre son dessein, à continuer à marcher dans son dessein de salut, d'amour. Amen. Que Dieu soit béni. On se lève et on remercie le Seigneur de nous avoir aidés à cheminer avec ses deux disciples et appris des choses concernant ce qu'il a voulu montrer en nous laissant ce récit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait avec ces deux disciples et ce que tu as fait avec eux. Tu veux le faire avec nous. Je sais que tu l'as fait avec moi à certains moments où j'en avais particulièrement besoin, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et je sais que tu veux le faire avec mes frères et sœurs. Alors, je te demande de les aider et de cheminer avec eux là où ils sont dans leur chemin de vie et de les rejoindre, Seigneur. Alors, pour ceux qui cherchent vraiment à connaître la vérité, même si parfois la vérité est dure à entendre, et parfois tu nous confrontes avec la vérité sur nous-mêmes. Et je t'en bénis, Seigneur, parce que c'est salutaire, c'est libérateur. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Pas seulement la vérité sur toi, mais sur nous également. Merci, Seigneur, tu as un chemin sur lequel tu nous attends pour nous permettre de vivre des choses grandes, des choses fortes, des choses vraies qui correspondent aux vrais besoins, les nôtres et ceux des autres également. Merci pour ce que tu as commencé de faire et tu le rendras parfait. À toi la gloire, Seigneur. Que ta paix soit sur ces bien-aimés, soit sur cette Église, soit sur la vie de chacun, sur chaque personne, parce que l'Église, c'est là où tu t'intéresses à chacun. Et dans ce monde-là, tu t'intéresses particulièrement à chacun de nous, Seigneur. Et merci pour ce que tu as commencé de faire et que tu continueras d'accomplir en nous, avec nous et au travers de nous. À toi la gloire, Seigneur. Amen.